15h à Paris et à Yaoundé, 14h en temps universel. L'heure de retrouver Florent Guignard pour le journal. Bonjour Florent.
Bonjour et merci Pascal. Et bonjour à toutes et à tous à la une de ce journal. La parole d'un Français prisonnier en Iran qui se dit épuisé. Il s'appelle Olivier Grondot. Il a choisi de briser le silence. Vous l'entendrez dans un instant. Également dans ce journal, un reportage en Syrie. Le nouveau pouvoir à Damas a lancé plusieurs opérations antiterroristes. On parlera aussi du Royaume-Uni qui veut devenir un laboratoire mondial de l'intelligence artificielle. Dans 10 minutes après ce journal, vous retrouverez autour de la question « Que disent nos mots ?» Un Français détenu en Iran sort du silence, l'un des trois Français actuellement dans une prison du régime de Téhéran. Le ministère français des Affaires étrangères vient de saluer leur courage et leur dans ce qu'il leur est infligé. Cet homme, il s'appelle Olivier Grondon, il a 34 ans et il a décidé donc de prendre la parole publiquement. Message enregistré du fond de sa cellule parce qu'il se dit épuisé, lui et les deux autres Français emprisonnés en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris. Voici un extrait de ce message.
Dans la situation, prendre la parole, c'est prendre un risque. Mais il y a risque, donc il y a espoir et il m'en reste très peu. J'ai beau genre penser à la vie qui m'attendrait après, au retour. C'est un vieux rêve qui suffit plus à donner du sens à cette veille épuisante. Vous, qui avez le pouvoir d'influer sur cette affaire, d'où que vous soyez, entendez cette vérité extérieure à toute idéologie. Les forces de Cécile, les forces de Jacques, les forces d'Olivier s'épuisent.
Voilà, extrait du message d'Olivier Grondot, diffusé quelques heures avant l'annonce d'une bonne nouvelle en provenance d'Allemagne. Une irano-allemande, Naïd Taravi, militante des droits humains, est arrivée hier soir en Allemagne après plus de 4 ans passés dans une prison en Iran. 19 morts de plus dans la bande de Gaza en 24 heures, 19 personnes tuées par l'armée israélienne selon le ministère de la Santé du Hamas. De son côté, en Israël, le gouvernement dit travailler dur pour obtenir un accord sur les otages. Alors que le Qatar a annoncé la finalisation d'un projet d'accord ce matin, à l'issue d'une nuit de discussion indirecte à Doha entre le Hamas et Israël, un accord sur un éventuel cessez-le-feu et sur une éventuelle libération des otages. Mais un des ministres d'extrême droite du gouvernement, Netanyahou, dit qu'il s'opposera à cet accord qu'il qualifie « accord de reddition ». En Syrie, le nouveau pouvoir à Damas a annoncé avoir déjoué au moins 2 attentats en 48 heures. L'un d'eux visait Alep, depuis les zones contrôlées par les Kurdes des forces démocratiques syriennes. Depuis, les services de renseignement et la sécurité générale ont renforcé leur dispositif à Alep. Reportage de notre envoyé spécial Manon Chapelin.
Une butte de terre barre la route qui mène à la zone administrée par les Kurdes des forces démocratiques syriennes. À l'entrée, des soldats d'Ayat Tahrir al-Sham arrêtent chaque voiture, fouillent les coffres, vérifient les pièces d'identité. Il y a 2 jours, une voiture piégée remplie d'explosifs a été trouvée là, en direction d'Alep, raconte Walid à l'entrée du checkpoint.
La voiture venait de la région de Deir Hafer, dans la zone kurde. Lorsqu'elle est arrivée sur ce checkpoint, les policiers ont tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Ils ont commencé à l'inspecter et en ouvrant les portes, ils ont vu qu'elles avaient été trafiquées. La voiture, en fait, était remplie d'explosifs cachés à l'intérieur des portières et dans le coffre.
Le long de cette route qui mène de la zone kurde aux portes d'Alep Est, 4 checkpoints ont depuis été montés. Du matin au soir, des policiers du service de sécurité en charge du contre-terrorisme font des rondes, car depuis la chute du régime, les tentatives d'attentats venues de la zone kurde sont fréquentes, explique Abou Hassan à la tête de 500 policiers.
Nous faisions déjà des fouilles auparavant. auparavant, mais nous avons augmenté les restrictions depuis cette affaire. Il est important que les gens comprennent que ce genre d'opération terroriste est grave, que cela n'apportera jamais la paix dans notre pays, surtout après que Dieu nous a permis de libérer la Syrie et d'éliminer la milice d'Al-Assad.
Il y a deux jours, les autorités syriennes ont également annoncé avoir déjoué une tentative d'attentat de la part des membres de l'État islamique. Un mausolée chiite près de Damas était visé. Manon Chaplin à Alep, RFI.
Le pire est peut-être à venir dans les prochaines heures à Los Angeles, qui fait face depuis la semaine dernière à plusieurs incendies après une légère accalmie et alors que 24 personnes ont été tuées par le feu selon le dernier bilan. La météo annonce des vents violents jusqu'à 110 km/h demain matin, des vents chauds et secs qui attisent les flammes. À Mayotte, l'alerte rouge et levé, les habitants ne sont plus confinés après le passage d'une tempête tropicale, un mois après le passage du cyclone, mais les autorités viennent de l'annoncer. La rentrée scolaire n'aura pas lieu, la reprise des cours n'auront pas lieu avant la semaine prochaine. Au Royaume-Uni, le Premier ministre droit dans ses bottes, alors que les marchés financiers font pression en raison d'une forte inflation et de dépenses budgétaires jugées trop importantes. Keir Starmer annonce qu'il s'en tiendra aux règles budgétaires qu'il avait fixées à l'automne dernier. Le Premier ministre britannique présente par ailleurs aujourd'hui un plan pour attirer les entreprises qui travaillent sur l'intelligence artificielle avec une devise « tester avant de réglementer » selon la tradition britannique. Myriam Berber.
Le premier volet de ce plan porte sur la création de zones de croissance de cette technologie. Des permis de construire vont être délivrés en accéléré pour des centres de stockage de données. Trois entreprises se sont déjà engagées à investir près de 17 milliards d'euros dans le pays, avec à la clé la création de 13 000 emplois. La première zone de croissance sera implantée à Culham, près de l'université d'Oxford, dans le sud-est de l'Angleterre, et va cibler des chantiers d'avenir dans le domaine médical, les services publics ou l'éducation. Un autre volet de ce plan porte sur les superordinateurs. Le gouvernement veut multiplier par 20 la capacité de calcul du Royaume-Uni d'ici 2030. Pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle, une bibliothèque nationale de données va également être créée. Enfin, d'autres mesures visent à développer les investissements dans les énergies renouvelables et les petits réacteurs nucléaires pour alimenter cette technologie énergivore.
Myriam Berber du service économie de RFI. La Chine confirme qu'elle est bien l'usine du monde. Pékin a annoncé ce matin un record d'exportation l'an passé en 2024 pour un montant total de 3 400 milliards d'euros. C'est un chiffre en hausse de 7% par rapport à l'année précédente. RFI, il est 15h08 à Paris, on va écouter de la musique. En musique pour plus d'humanité, c'est une initiative lancée il y a 6 ans par un orchestre de jeunes en France, l'orchestre Ostinato, qui travaille depuis octobre dernier sur un nouveau projet qui sera présenté ce soir dans la nef du musée d'Orsay. Carmen Lutzmann a assisté à une des répétitions.
Vêtu de chapeaux, de jupes en tulle et autres accessoires prêtés par l'Opéra de Paris, une troupe hétéroclite découvre la symphonie fantastique en dansant.
Je suis au Secours Populaire pour des aides alimentaires.
Et comme par magie, il y a eu ce projet que j'ai pas pu refuser.
Sofiane, 31 ans, venant d'Algérie, incarne le rôle de Berlioz, le compositeur dans cette chorégraphie créée avec un danseur à l'Opéra de Paris, Maxime Thomas.
Il y a des gens d'Afghanistan, d'Iran, du Bangladesh. Donc à travers le geste, le mouvement, la danse, c'est une porte d'entrée vers une expression de soi, développer aussi leur confiance en eux et peut-être une force intérieure qui leur sera utile dans la vie de tous les jours.
L'intégration, bien sûr, ça n'a pas été facile au début.
Confirme Thierno, 18 ans, qui a dû quitter la Guinée-Conakry.
Parce que l'école là où j'étais a été détruite. Mais quand je danse, je sens tout mon amour. Je ressens que des belles choses, quoi.
Mission accomplie pour Emmanuelle Dutu, directrice de l'orchestre Ostinato, qui est à l'origine du projet, nourri aussi par des témoignages des réfugiés.
Quand ils vont déclamer des textes de leur parcours, c'est là qu'on réalise qu'ils ont vraiment des choses lourdes derrière eux. On a un danseur mauritanien qui a failli mourir plusieurs fois dans des traversées clandestines. C'est l'émotion qui va ressurgir.
Le corps, il dit beaucoup de choses. Enfin, je dis plus que la parole.
La symphonie fantastique de Berlioz par l'orchestre Ostinato. Il est 15h10 à Paris, fin de ce journal. Dans un instant sur RFI, autour de la question.